franceinter.fr.
Bonjour à tous. S'il est un pays du continent nord-américain qui bénéficie d'une bonne réputation, c'est bien le Canada. Le Canada, une démocratie ouverte sous l'ombre à peine portée de la couronne britannique, un pays de liberté, d'abondance, d'hospitalité. Et pourtant, si nous prenons la route de ce pays idyllique ce matin, c'est pour en découvrir un aspect sombre, un aspect qui lui a valu un rapport très sévère d'Amnesty International en 2004 et une mise en garde tout aussi sévère d'une commission des Nations Unies 10 ans plus tard. Nous parlons ce matin de ce que l'on appelle outre-Atlantique les autochtones, autrement dit les représentants de ces nations premières qui peuplaient ces terres avant l'arrivée des colons français et anglo-saxons, ce que l'on appelle vulgairement les Indiens. Et nous nous intéressons plus particulièrement au sort des femmes autochtones. Selon un rapport de la Gendarmerie royale du Canada, ces 30 dernières années, plus de 1200 de ces femmes ont été assassinées pour la plupart, ou bien portées disparues pour les autres. Il y a quelques semaines, la nouvelle ministre des Affaires autochtones a même évoqué un chiffre plus monstrueux encore, celui de 4000. La ministre a très clairement accusé la police de maquiller les statistiques. Car autant que les chiffres, ce qui choque, c'est l'indifférence à peu près totale dans laquelle ce drame a laissé le pouvoir jusqu'à tout récemment. Les autochtones représentent environ 4% des 35,5 millions de Canadiens. La plupart vivent dans des conditions économiques détestables. Et les femmes en sont doublement victimes, car outre la misère, elles souffrent aussi de violences dans et hors de leur communauté. Depuis des années, les associations autochtones réclament une véritable enquête nationale sur ce phénomène. Portée disparue, le drame des femmes autochtones, c'est un reportage de Sarah Mackay.
Interception, le magazine de la rédaction.
Notre voyage commence sur la route vers la réserve algonquienne de Pikogan. C'est à 600 km au nord-ouest de Montréal, 600 km d'une route droite blanchie par la neige, avec de chaque côté des sapins à perte de vue.
Facebook, Capital Rock, Abitibi, ce que vous faites aujourd'hui.
Alors, je suis bien arrivée à Pikogan. Je viens rencontrer ici dans la réserve. Alors, la réserve étant une rue, à peu près une grande rue avec quelques baraques, baraquements. Le long de cette rue-là, il y a d'ailleurs une église également en forme de tipi, une église qui date du milieu du XXe siècle. Et au bout de la rue Tom Rankin, au 245, je vais rencontrer chez eux les parents de Cindy Rupertaus. Cindy Rupertaus a disparu il y a quasiment 2 ans. Maintenant, c'était au printemps 2014. Elle avait 44 ans. Et je vais rencontrer Johnny Wild et sa femme Emily qui vont nous raconter la disparition de leur fille et leurs propres recherches parce qu'ils mènent eux-mêmes, continuent à mener depuis 2 ans des recherches en parallèle en espérant que je vais réussir à ressortir parce que la rue de la réserve de Pikogan n'a pas été déneigée. Alors, 60, 75, on va au 245, au bout de la rue. Tout le monde a l'air d'avoir des 4x4 ici, on comprend pourquoi. Alors là, il y a Johnny White dehors avec sa pelle, et sur la fenêtre, il y a une photo de leur fille, Cindy.
Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de
neige pour vous, mais moi qui n'ai jamais conduit dans la neige, c'est pour ça que je suis partie vraiment en avance. Parce que quand j'ai vu la neige, je me suis dit, bon, ça va prendre du temps.
Mon nom, c'est Emilie Repartaus. Je suis la mère de Cindy, la fille qui est disparue. J'ai 64 ans, je suis grand-mère, puis arrière-grand-mère, puis je travaille pas en ce moment, une dépression. Aujourd'hui, je porte bien, mais c'est grâce à des médicaments que je prends. Je suis dépendante de ça.
Cindy a 44 ans au printemps 2014. C'est ce mois-là qu'elle donne plus de nouvelles. C'était en avril.
Mois d'avril. Pourquoi qu'on savait mois d'avril? Parce que il était à l'hôpital qui s'est fait battre par sa conjointe. C'est la dernière fois que les policiers ont parlé. Il a demandé s'il voulait poser une plainte et dit non. Après un certain temps, on a dit aux policiers que notre fille est disparue, puis là, on a fait une déposition.
Cindy, elle habitait à Val d'Or. Elle étudiait, du coup, vous disiez qu'elle était à Gatineau.
Elle était aux études à Val d'Or. C'était pour se faire perfectionner. Mais il a rencontré un homme qui l'empêchait de poursuivre ses rêves. À la fin, je pense qu'elle subissait pas mal de violence. À la fin, il pleurait au téléphone, par exemple, pour avoir de l'argent. Il me demandait 200 pièces. J'avais dit non, parce que j'ai dit que je ne veux pas l'aider avec le gars qu'il battait. Il pleurait au téléphone. Je t'en prie, maman. Donne-moi 200 pièces. J'ai dit non. Puis c'est la dernière fois que je lui ai parlé.
On dirait que ça avance pas, l'enquête. Puis les policiers, ils ont offert 40 000 $ pour récompense pour trouver ma fille. Mais il ne se passe rien. C'est pas vivable, ça. Ça a changé dans notre famille. Plus rien n'est pareil.
En quittant la réserve de Picogan, il faut une heure de route pour rejoindre Val d'Or. Toujours cette route droite que j'ai un peu de mal à deviner avec la neige qui tombe. Val d'Or est une petite ville industrielle fondée dans les années 30 pour exploiter les gisements d'or de la région. Cela fait plusieurs semaines que la ville fait maintenant la une de la presse québécoise en raison d'un scandale. Des femmes autochtones accusent les forces de police d'agressions sexuelles. La plupart des femmes qui portent ces accusations sont des amies de Cindy Repartaus. Ici, contrairement aux élites du Québec, une grande partie de la population est composée d'autochtones. Les alentours abritent plusieurs réserves indiennes. Et jusque dans les années 60, il régnait une sorte de ségrégation entre les habitants d'origine européenne et les Indiens. Certains restaurants ou bars leur étaient interdits. Alors aujourd'hui, ce n'est bien sûr plus le cas, mais les relations entre communautés restent compliquées.
La neige, elle a vraiment tombé au 26 décembre.
C'est tard aussi.
Oui, c'est très tard.
C'était chaud aussi. Oui. Donc là, on marche sur la 7e avenue.
7e rue.
7e rue, oui. D'accord. Et on se rend chez Willy, c'est
chez
ça?
Willy. Chez Willy Meegan. Meegan, c'est le volet femme, justement,
d'accord.
Des services.
D'accord. Et donc, chez Willy, c'est un centre, justement, pour itinérants?
C'est un lieu de hippie, oui, pour accueillir les gens qui vivent en situation d'itinérance, leur donner un lieu chaud.
Hommes et femmes.
Hommes et femmes, oui.
Sharon Hunter, du Centre d'amitié autochtone de Val d'Or, nous amène chez Willy, un lieu d'hébergement pour SDF, peuplé essentiellement d'autochtones.
Je n'ai pas vu la semaine, je suis en matin. Oh. Hey. Good morning.
Good morning.
cold room.
This is Sarah.
Hi.
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 This is Jason Christopher.
Christopher. Enchanté. Christopher Stephen. Je suis écrit. Et j'écris pas. Je suis un appelé client, Sydney.
What's
enchanté.
Your name?
Sarah.
Sarah. Sarah. Nice to meet you.
Je veux juste savoir si vous aviez connu Cindy Rupertas.
Oui, j'avais connu Cindy. C'était une amie quand j'étais jeune. Je me souviens d'elle de temps en temps. Je pense à elle. Elle vient de Picogan. On ne sait pas que c'est quoi qui arrive à elle. Puis quand elle était disparue, moi, je ne peux pas dire que c'est ça qui est arrivé, mais j'espère qu'un jour, on va la trouver. On va la retrouver puis l'amener chez nous.
Jeff, I'll see you, Jeff. Thank you for my doing my job.
Bye. You guys, see you later.
Bye.
Take care. You're going to be okay? I'll come back, okay? You want me to help you something, okay?
Yes.
Come back.
Départ avec Christopher Stephen, le travailleur social du foyer, membre de la Nation Cri. À la découverte d'un Val d'Or peu reluisant où prostitution et alcoolisme font des ravages, notamment parmi les femmes autochtones.
Hey Noël!
Hey.
Noël! Ça c'est Sarah, un journaliste de France, Radio France.
Ouais.
Il vient de France. Les Indiens ici à Val-d'Or, là, ils marchent tout le temps, ça.
La rue principale, là?
Oui. Ça, c'est pour aller au centre amitié, là-bas, là. Les Saint-Abri de Val-d'Or, là, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé avec les Cris, les Algonquins, les Atikameks.
Bon, donc là, on est quoi? C'est la rue principale, là?
Oui, ça, c'est la rue principale, là, en centre-ville. C'est le monde des rues, des sans-abri, ils promènent ici, puis des prostituées, ils se tiennent ici dans le coin. Et là, je pourrais pas dire qu'il n'y en a pas de prostitution en Val-d'Or avec les autochtones, tu comprends? Moi, je peux dire, honnêtement, il y en a. Mais il faut qu'on fasse quelque chose avec ce projet-là, avec Nigan puis l'autre part, pour l'aider des femmes qui m'ont sorti dans la rue, puis surtout la prostitution avec les autochtones, tu comprends? Il y en a des mondes qui vivent tout ça, là. La prostitution, la drogue, et toute la vie, la rue, là, qui s'amène tout, là, c'est ça qui se fait, là. La chose, quand tu vois une femme autochtone qui se fait ça, qui se fait dans le domaine de la prostitution, là, c'est vraiment triste quand tu vois ça. Là. C'est vraiment triste. Notre chef, puis notre leader, tous les chefs crient, là, les Algonquins, devraient faire une grosse réunion pour aider les femmes dans la rue à Val-d'Or pour faire sortir de la prostitution. Oui, ça, c'est une peinture qu'ils ont faite...
C'est une fresque, oui.
L'année passée, oui.
Une peinture, c'est beau.
Oui, oui, oui.
Tu vas voir Sharon?
On va voir Sharon maintenant, OK?
Oui.
Moi, après, je te laisse là-bas.
Oui, oui, oui. Merci déjà beaucoup d'avoir pris le temps.
OK.
Bonjour, mon nom, c'est Sharon Hunter. Je suis conseillère pour le Centre des métiers autochtones de Val-d'Or.
Très bien. Êtes-vous vous-même autochtone?
Oui, je suis Anishinaabe Kwe du Témiscamingue.
Dominique Parent, directrice du développement social et allochtone.
Comment vivent les deux communautés, la Val-d'Or? On est vraiment dans une ville à peu près moitié autochtone, moitié...
Allochtone,
non-autochtone. Comment ça se passe?
Comment ça se passe, la cohabitation? Si ça se passe même? Ben, pour ma part, je te dirais que je sens comme une vide par rapport aux relations qu'on peut vivre avec les non-autochtones. Il y a un vide au niveau des relations en tant que la courtoisie même. Tu sais, on est, exemple, à l'épicerie, puis on est... en file pour la caisse, puis il n'y a pas personne qui va te jaser plus que ça ou même te saluer. Tu sais, il y a ce manque-là de courtoisie, de d'être chaleureux.
Les Autochtones ont souvent... La perception, c'est vraiment une perception que les Allochtones et les Autochtones ont des Autochtones. C'est des fois peut-être un... Ils sont stéréotypés. Moi, la perception que j'ai en tant qu'Allochtone, c'est qu'ils sont des fois mis en marge de la société, qui sont pas considérés comme les autres citoyens de la ville de Val-d'Or. Fait que non, le vivre ensemble, puis je trouve qu'elle décrit bien en disant il y a comme un vide, il y a un gap qu'on n'a pas réussi encore à rejoindre. T'sais, il y a encore du chemin à faire pour que les deux cultures se rencontrent et puis qu'ils voient à quel point ils peuvent bénéficier de cette cohabitation-là qu'on a ici à Val-d'Or. Parce que c'est une chance d'avoir une si belle culture et un si beau peuple parmi nous.
Comment on peut expliquer la plus grande fragilité des femmes autochtones en comparaison aux femmes non autochtones?
Il y a un racisme systémique qui s'est, avec le temps, installé partout, dans les différents systèmes, que ce soit gouvernementaux, les politiques, etc., qui ont mis en marge la société, les Autochtones. Et les femmes se retrouvent doublement discriminées de par le fait qu'elles sont des femmes. Moi, je dénote souvent une grande souffrance de ces femmes-là. Des femmes, des fois, qui ont vécu, tu sais, une vie d'abus ou d'agression ou des gens qui n'ont jamais pu vraiment connaître ou vivre leur identité parce qu'ils ont été mis en famille d'accueil, parce qu'ils ont été éloignés du foyer familial. On leur a enlevé, finalement, leur territoire. On leur a enlevé leur langue, leur culture. Fait que c'est leur identité propre à elles. Fait que oui, ils sont discriminés, mais ici, il y a beaucoup de pauvreté. Elles se retrouvent souvent seules, loin de leur communauté, loin de leurs proches, avec pas de réseau, surtout quand ils sont en milieu urbain. Alors nous, au centre, notre travail, c'est un peu de les aider à reconnecter avec, oui, un réseau, mais aussi avec leur culture, avec leur identité, pour qu'elles puissent vivre sereinement tout ça et aller vers leur idéal de vie à elles, avoir un projet de vie à elles.
Bonjour et bienvenue à bord des autobus Maheu. Mon nom est Jean-Michel, je suis votre chauffeur jusqu'à Montréal. Un simple rappel pour vous dire qu'il est strictement défendu de fumer ou de consommer boissons alcoolisées à l'intérieur d'autocars. Vos utilisateurs d'Internet avec accès à réseau Wi-Fi. Le mot de passe est indiqué sur le petit collant vert collé dans la vitre près de votre siège. Nous avons un arrêt prévu à Mont-Laurier vers les 6h30, un arrêt de 30 minutes, une demi-heure pour notre pause repas. Sur ce, je vous souhaite un agréable voyage.
Assassinée dans le Grand Montréal, mais dont on n'a à peu près jamais parlé.
Ben effectivement, on dit qu'il y a 1200 femmes autochtones qui sont disparues ou qui ont été assassinées au Canada depuis 30 ans. C'est les chiffres de la GRC, ça. Souvent, on peut avoir l'impression, vu d'ici, que c'est des cas assez lointains. On entend parler de cas en Colombie-Britannique, dans les prairies canadiennes, dans le Grand Nord. Mais ici, dans la région de Montréal, est-ce qu'il y en a eu? Ben oui, au moins un cas. Tiffany Morrison, femme de 25 ans, disparue en 2006. Moi, j'en avais jamais entendu parler de ce cas-là, alors qu'on a parlé d'autres cas de disparition sur cette période-là. Bon, là, j'ai pas refait l'enquête, évidemment. Je voulais avoir le point de vue de la famille aujourd'hui, parce que les familles ont l'impression de pas être écoutées souvent. Alors, j'ai laissé le micro à sa sœur, Mélanie Morrison. Je suis allé à Kanawagé pour lui parler. Pour elle, le drame a commencé, pour Mélanie Morrison, la sœur de Tiffany, le drame a commencé en 2006 par un appel.
Mon mère appelle moi et dit « Tiffany n'est pas là ». Je appelle tous les amis et rien d'information. Immédiatement, je fais les anxiety.
Mois de juin 2006.
Yeah. Mois de juin 2006.
Quelle a été la réponse de la police?
It was, well, she probably went out with her friends.
Ils ont dit, elle est peut-être sortie avec ses amis ou elle est allée à une fête et elle va vous appeler. Ma mère a dit non. J'ai appelé tous ses amis, je suis allée les voir, j'ai cherché. Elle ne partirait pas comme ça. Quelque chose est arrivé. ils ont dit, ben, on va voir ce qu'on peut faire.
And they said, well, we'll see what we can do.
Vous avez eu l'impression d'être laissé à vous-même avec l'enquête.
That's the way it felt all the way along.
C'est ce qu'on a ressenti du début à la fin. Quand un policier a été vraiment chargé du dossier, et ça a pris du temps, il a essayé de faire bouger les choses, mais c'est insuffisant. Ce n'était pas à nous de faire l'enquête.
Attention, s'il vous plaît. Nous arriverons au terminus de Montréal dans quelques minutes. Veuillez prendre le temps de bien vérifier pour ne pas oublier l'objet personnel sur votre siège ou dans les porte-bagages au-dessus de vos têtes. Au nom des autobus Maheu, je vous remercie d'avoir voyagé avec nous et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Je m'appelle Hugo Lavoie. Je suis journaliste et chroniqueur à l'émission matinale de Radio-Canada dans la région de Montréal. La raison pour laquelle j'avais fait ce reportage-là, c'est que la disparition dont j'avais parlé, celle de Tiffany Morrison, c'est une disparition qui s'était passée, si on veut, à Montréal ou juste à côté de Montréal. On n'était pas dans un cas de disparition extrêmement éloigné où là, il y a un facteur géographique aussi qui entre en ligne de compte. Là, on était dans une situation où une jeune femme de la région de Montréal était disparue, avait été retrouvée finalement morte 4 ans plus tard. Et jamais j'avais entendu parler de cette histoire-là. J'avais jamais entendu parler de ça. Et beaucoup de mes collègues n'avaient jamais entendu parler de cette histoire-là.
De la tour, parce qu'il faut dire que Radio-Canada, on est dans une grande tour qui est vraiment proche du Saint-Laurent. En haut de la tour, on voit quasiment, j'imagine, le pont Mercier.
Oui,
on
oui.
voit la réserve de Kaniwaki. On voit là où Tiffany Morrison avait disparu et où son corps a été retrouvé.
On est à quelques kilomètres de cet endroit-là, effectivement. Faut admettre que il y a eu une différence de traitement médiatique entre les cas de femmes autochtones disparues et j'ai l'impression, en tout cas, c'est pas scientifique, là, mais entre les cas de femmes autochtones disparues et les autres. Maisie Ojik, qui est disparue à l'âge de 15 ans à Maniwaki, a généré 16 articles, selon un moteur de recherche, à l'époque de sa disparition.
Ça, c'est un logiciel de recherche.
Oui, c'est un logiciel
qui
de recherche.
Presse, télévision, radio
c'est
et
ça.
Médias sociaux.
Exactement.
Il n'y a que 16?
Il y a 16 articles qui ont été écrits au moment de sa disparition. Si on prend un autre exemple plus récent, mettons, Kelly Martin-Nollet, il y a eu 190 articles sur sa disparition.
D'accord, et Maisie Ojik, elle est autochtone?
Elle est autochtone. Et la seconde dont j'ai parlé, Kelly Martin-Nollet, n'est pas autochtone et elle a généré 190 documents. Évidemment, c'est pas scientifique comme comparaison, mais on voit quand même une différence marquante dans le nombre d'articles qui ont été générés pour une adolescente autochtone disparue et pour une adolescente non-autochtone disparue. Ce qui a fait en sorte que je m'y suis intéressé, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne connaissait rien sur la culture autochtone d'aujourd'hui. La population montréalaise et québécoise, en bonne partie, ne connaît pas les peuples autochtones, leurs traditions, leur langue, etc., etc. Moi, je m'adresse aux Montréalais tous les matins et je me suis dit que ça serait la moindre des choses de contribuer à cette prise de conscience collective qui est en train, je pense, de se faire au Canada. Et je noterais que, par exemple, quand je suis allé assister à une veillée de poésie concernant les femmes autochtones disparues, les organisatrices s'attendaient à quelques participants et finalement, la salle était bondée et elles-mêmes me disaient qu'elles avaient l'impression que quelque chose est en train de changer.
Théâtre Denis Pelletier, Montréal. Ce soir, une troupe présente la pièce Mouliats. Elle est interprétée en grande partie en langue innou, non sous-titrée. Mouliats, ça veut dire Montréal en innou.
C'est quoi noix de Chagwin-Winnie, nous pampelun? C'est monsieur monsieur Wien. C'est quoi une silhouette, c'est gâteau noté? Ne pas monsieur Mloelten, tu vois peut-être mal, tu vois peut-être un Aïtispult.
Non, Marco, on vient de la même communauté, on a la même
bande. Vous comprenez pas, Linou, hein? Non, hein?
Moi, je vais leur montrer, OK?
Répétez après moi. Oui, oui, plus fort.
Oui.
Oui, c'est ça que ton dit, le mot, faut que ça soit oui. De ce côté-là, est-ce qu'on est capable de dire oui?
Oui.
Plus fort que ça.
Oui.
OK, ça, ça veut dire bonjour. OK? Allez, on va l'avoir, on va l'avoir. OK, vous là-bas, Pichoum? OK, juste les gars, Pichoum.
Pichoum.
Juste les femmes?
Pichoum.
OK, Pichoum, ça veut dire le soleil. OK? C'est beau, hein? Et si on va avec Tepeshkar. Tepeshkar, OK. Tepeshkar.
Tepeshkar.
OK, ça, ça veut dire la noirceur. Et si on met les deux mots ensemble, on dit Tepeshkar Pichoum.
Tepeshkar Pichoum.
Ça, ça veut dire la lune. Le soleil de la nuit.
OK.
C'est beau, là?
Je viens de Montréal. Je suis québécois. Je suis né au Québec. J'ai toujours vécu au Québec. Je connais pas les Indiens. Les Amérindiens. Les Autochtones. Non, c'est pas vrai. Je connais ça, là. J'en ai déjà rencontré. J'ai déjà vu plein de vidéos là, sur les réserves. Village. Tribu. Communauté, puis tout, mais j'ai jamais vraiment dialogué avec un aborigène. Première Nation. Je sais que les sauvages, les... Excuse-moi, je veux vraiment pas être déplacé. Dis-le-moi si je suis déplacé, OK?
OK.
C'est quoi, ma qui c'est tout bon? Tandis, ma qui c'est tout Et quoi, ma qui, et quoi, ma qui, et quoi, ma qui,
Emmanuel Walter, journaliste indépendante et auteur.
Emmanuel Walter est l'auteur du livre « Sœurs volées, enquête sur un féminicide au Canada ». Elle retrace l'histoire et la disparition en septembre 2008 de deux adolescentes autochtones, Maisie Ojik et Shannon Alexander, toujours portées disparues à ce jour.
Je me souviens que j'étais dans ma chambre et que je surfais sur mon ordinateur sur le monde autochtone au Québec où j'habitais depuis à peu près une dizaine de mois. Et puis, je suis tombée sur un article qui disait, en gros, l'ONU va bientôt venir enquêter sur les assassinats et disparitions de femmes autochtones au Canada. Puis, j'ai eu un moment d'hallucination. Je me suis dit, au Canada, parce que le Canada, c'est pas les États-Unis, c'est un pays très égalitaire, c'est un pays féministe, c'est un pays où il y a des filets sociaux pour les plus démunis, mettons. Et donc, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais que les réserves, c'était pas le paradis, j'en avais vu, mais je pensais pas qu'il y avait des assassinats en masse. J'ai vraiment halluciné. Puis ensuite, c'est devenu très obsessionnel. Puis c'est devenu ce livre. Il fallait montrer la diversité entre guillemets des victimes. Puis il fallait vraiment montrer que elles sont de partout au Canada, qu'elles ont tous les âges possibles, que ça se passe depuis des années, qu'elles sont tuées de toutes les manières imaginables par tous les hommes possibles. Dans cette liste, j'avais évidemment, hélas, des centaines de noms. Et donc, j'ai voulu, à travers ces noms-là, raconter juste avec des noms, des dates et des circonstances de la mort, raconter cette tragédie-là. Donc, c'est un passage qui était touchant et qui était dur à écrire, par exemple.
Ça donne un extrait du livre, donc page 54-55. OK.
Elle meurt sous les coups de leur conjoint, Inuzik Akavak, 2000, Nunavut, mais aussi de tueurs en série, Brenda Wolfe, 1999, Colombie-Britannique. Elle meurt sur les routes où elle fonde l'autostop, Ramona Wilson, 1994, Colombie-Britannique. Elle meurt parce qu'elle marche seule dans la rue et ont l'outrecuidance d'être autochtone, Helen Betty Osborne, 1971, Manitoba. Et trop souvent, c'est le grand rien, pas de traces, pas de corps, Maisie Ojik et Shannon Alexander, 2008, Québec. C'est le point d'interrogation qui vrille l'estomac des mères, des pères, des frères, des sœurs et des cousins. Les familles se débattent, enquêtent parfois en lieu et place des policiers, protestent contre le peu d'attention qui leur est accordée, mais leurs cris sont comme absorbés par un Canada ouaté, feutré, qui s'accommode de la misère des autochtones. Le silence.
Donc là, c'est 54, page 54-55 du livre Survolé que vous avez écrit. On a senti dans votre voix l'émotion.
Ça a l'air un peu déplacé d'être ému par ses propres mots, mais ce n'est pas mes mots, c'est ce que m'a inspiré la situation. Puis je continue à suivre, je dirais, tous les jours, puisque avec le nouveau gouvernement libéral de Justin Trudeau, ils ont pris vraiment le taureau par les cornes, puis il y a une enquête qui se déroule d'une manière qui est au-delà de tout ce qu'on aurait pu espérer, c'est-à-dire elle est faite avec les familles des victimes, on les a écoutées, on a écouté la manière dont elles voulaient que l'enquête se déroule. Donc les ministres elles-mêmes se sont déplacées, il y a 3 ministres du gouvernement qui se sont déplacés partout au Canada pendant toutes ces dernières semaines pour écouter de manière complètement informelle les familles. Et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse être faite.
Si on pose la question de qui l'es-tu, c'est pas une personne, c'est peut-être une société.
Oui, c'est pas un méchant serial killer qui tue que les femmes autochtones, ça serait simple. Il y a des serial killers qui tuent des femmes autochtones, effectivement il y en a, mais c'est seulement une partie de la réalité. En fait, je résume pour faire comprendre, je dis « elles meurent parce qu'elles vivent dans des quartiers pauvres et violents ». Ça a l'air un peu simpliste, mais il n'y a rien de plus vrai. Elles vivent, qu'elles soient elles-mêmes en situation d'hypervulnérabilité, comme elles sont surreprésentées parmi les prostituées, parmi les toxicomanes, parmi les sans-abri, sachant qu'elles sont que 4% de la population des femmes canadiennes, mais elles sont beaucoup plus représentées dans ces populations de personnes vulnérables. Mais même si elles ne font pas partie de ces populations vulnérables, elles sont en danger du simple fait de l'endroit où elles vivent. Et après, pourquoi elles vivent dans ces endroits-là? C'est évidemment l'histoire coloniale qui explique leur fragilité sociale et leur environnement immédiat. Le fait même d'être autochtone au Canada est un facteur d'hypervulnérabilité sociale. Alors, elles sont assassinées par qui? Il y a un chiffre intéressant qu'Amnesty International a calculé à partir des chiffres de la Gendarmerie royale du Canada, c'est qu'elles sont 3,5 fois plus à risque d'être assassinées par un membre de leur famille que la moyenne des Canadiennes. Mais elles sont 7 fois plus à risque d'être assassinées par quelqu'un qui n'est pas membre de leur famille. Et j'aime bien donner ce chiffre parce qu'il donne une idée de leur ultra-vulnérabilité, c'est-à-dire où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent, elles sont en danger.
J'avais comme compris qu'il fallait que je débarque à Côte des Neiges. Mais c'est pas grave, j'ai regardé, puis c'est 10 minutes de marche pour aller chez toi, là, c'est pas super. Hein.
On arrive chez Alana Boileau, coordonnatrice justice et sécurité publique à l'association Femmes Autochtones Québec. Lauréane Fontaine, qui travaille aussi pour l'association, me guide jusqu'au domicile d'Alana. Il y a eu une grosse tempête de neige ces dernières heures. En fait, il est juste impossible d'accéder à leur bureau. Femmes autochtones du Québec travaillent depuis des années sur les cas de disparition et d'assassinat des femmes autochtones. 1200 dans tout le Canada. À l'échelle de la France, cela représenterait 55 000 femmes.
Oh my God, vous êtes très motivés.
Ben, ça va.
Mon Dieu.
Bonjour.
Allô.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu jusque chez nous.
Ben non, ça fait plaisir.
C'est vraiment cute. Bon, alors là, j'ai
oh my God, wow!
Est-ce que vous prenez avec du lait ou pas de lait? Parfait. Voilà.
S'il n'y a pas encore de lait dedans.
Entre les mains, vous avez quoi?
Le magazine Châtelaine du mois de mars 2016, où il y a un dossier spécial sur les femmes autochtones.
Non.
Non, c'est ça, on voit un article qui s'appelle « Exit les préjugés » et on y voit un Tipeee, un capteur de rêve. C'est ça. Ça reste, disons, très basique, là, tu sais, c'est pas... On va pas chercher loin, tu sais. La coiffe, c'est pas toutes les nations qui la portent. Les Inuits ont pas... On n'a pas la coiffe.
Est-ce que vous pouvez me dire quelques préjugés? Là, il y en a 4. Vous me les lisez, puis en tant qu'Inuits, là, vous me les commentez?
OK. Les Autochtones ne paient ni taxes ni impôts. Ben seulement sur réserve, ça, c'est un fait. On mentira pas là-dessus, mais quand je ne suis pas sur réserve, je paie mes taxes, je paie mes impôts comme tout le monde. Ensuite de ça, on voit les Autochtones sont des assistés incapables de se prendre en charge. Ben là, je dirais, écoutez, j'ai un emploi, je suis à l'université. Je pense que c'est comme en général, autant chez les Autochtones que les non-Autochtones, on peut retrouver ce type de gens-là, mais c'est pour pas mettre tout le monde dans le même bateau.
Comme je savais pas comment ça allait sonner du reggae en Innu.
Ça sonne
super bien.
C'est vraiment bon.
Je travaille beaucoup sur la question des femmes autochtones disparues ou assassinées. Je viens de soumettre finalement un rapport que j'ai écrit avec une collègue, Annie Bergeron. Et ensemble, on a documenté la question des femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec parce que ça n'avait pas encore été fait ici dans la province. Donc, la quarantaine de rapports qui existaient déjà parlaient du Canada en général ou beaucoup de l'Ouest canadien. Mais très peu ou en fait pas du tout de la situation spécifique au Québec. Donc c'est important pour nous de mettre ça sur papier, de donner une voix aux personnes autochtones qui vivent ces réalités-là. Il y a beaucoup de violences familiales, on le voit. Les femmes avec lesquelles on a discuté en milieu autochtone ont tenu à ce qu'on le dise. C'est délicat à aborder parce que, particulièrement dans le contexte de l'ancien gouvernement fédéral, le gouvernement de conservateur de Stephen Harper, qui disait, de toute façon, c'est les hommes autochtones qui assassinent les femmes autochtones, puis c'est un problème indien, dans le fond. C'est un problème autochtone, comme si c'était de leur faute et que, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'il y a de la violence familiale, mais au-delà de la violence familiale, il y a un manque flagrant, un manque tragique de services, de soutien, un manque horrible d'aide pour que les gens qui vivent avec cette violence-là puissent s'en sortir, tant les hommes que les femmes. Donc, les hommes qui ont des comportements violents ont besoin de soutien, ont besoin de guérison. C'est d'ailleurs caractéristique du milieu autochtone de se dire qu'il faut qu'on travaille ensemble, hommes et femmes, pour se guérir des impacts de la colonisation. Depuis que la question des femmes autochtones disparues assassinées est plus connue, qu'elle est plus médiatisée, depuis même aussi là, l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Justin Trudeau, une certaine volonté politique qui est encourageante, mais je pense qu'on accueille tout ça avec un petit peu de caution, de méfiance, c'est un peu fort comme mot, mais parce que ce sont des siècles de dommages qui sont à réparer, et les relations de confiance prennent du temps à construire. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de mesures qui sont prometteuses. À savoir si ça aura un impact à long terme, on verra. Donc, Femmes autochtones du Québec, on travaille depuis cet été avec le SPVM, donc le service de police de la Ville de Montréal. L'objectif était de formaliser la relation entre la police et la communauté autochtone de la Ville de Montréal, soutenir les policiers dans leur quête de sensibilisation et d'éducation par rapport aux réalités autochtones, créer un poste d'agent de liaison autochtone, donc quelqu'un qui fait le pont entre la communauté et les services policiers. S'il y a une femme qui est portée disparue à Montréal, ben idéalement, la communauté autochtone et les pourvoyeurs de services dans la région urbaine se mobiliseront pour s'assurer que cette femme-là soit retrouvée le plus rapidement possible, parce qu'on a vu par le passé que la mobilisation se faisait beaucoup trop lentement et parfois même ne se faisait pas du tout.
Et c'est justement ce nouvel agent de liaison avec la communauté autochtone que je rencontre. Carlo De Angelis, policier de la ville de Montréal, me propose de patrouiller avec lui.
J'ai commencé à travailler avec la communauté avant que je devienne agent de liaison. Puis j'ai travaillé sous la collaboration qui était signée. J'ai fait partie de l'équipe qui a travaillé là-dessus.
Là, si on parle concrètement des quartiers, est-ce qu'il y a des quartiers plus à risque à Montréal où on retrouve plus de prostitution, plus de...
Ben, écoute, quand tu regardes Montréal en général, là, vous pouvez vous promener n'importe quel secteur, puis c'est sécuritaire. Rien de plus. Regarde, n'importe où tu vas aller dans la ville, là, t'as pas à avoir cette crainte-là. C'est sûr qu'il y a différents secteurs. Comme ici, quand on va dans le secteur qu'on arrive ici, à la section de Place des Arts, on va trouver beaucoup... la communauté autochtone ici. Pourquoi? Bien, on a le centre MC autochtone qui est juste à droite. On a le projet autochtone qui est juste en bas. On est en plein centre-ville.
Tu vas à la ville aspirant à une vie meilleure dans ta fuite. tu te fouilles.
Joséphine Bacon, artiste inoue, a écrit un poème pour les femmes autochtones canadiennes disparues ou assassinées.
Tuiyohomut, tin tuhomutadien, matetawententen chwot, tetabatumustadien, tetabuetadien. Tu vas de rencontre en rencontre, tu t'inventes un récit qui te ressemble. Tu t'en vas si loin de ta naissance, ton évasion ne danse plus, tes musiques ont perdu leur rythme. Katakustatan te kainyouin, bonapno enimnanout, te tichwebdidihan, miam kohkopi wastenman. Tu vas si vers des lumières, tel un papillon qui brûle ses ailes. Jehechan miamichwesis, aboimet steimono, tunahamdihan, shash abobeda kwin kadepoin. Tes hauts secours s'enfuient vers le vent du nord inquiet. Tu pries pour être entendu, mais ton cri reste silencieux. Ton âme retourne vers les tiens. Steimian titi pétagouin, abonana pétagouin, stébouin, stéjagouche.
On est à la maison Missinac dans la ville de Québec, à un peu plus de 2 heures de Montréal. C'est une maison chaleureuse qui peut accueillir jusqu'à une quinzaine de femmes amérindiennes avec leurs enfants. La maison se veut un lieu de repos et d'entraide pour ces femmes isolées, souvent en train de fuir une violence conjugale ou juste perdues dans la ville alors qu'elles arrivent de leur communauté.
J'aimerais ça vous faire écouter Chloé Setmar. C'est une non-autochtone, mais qui chante des musiques inoues.
Elle est non-autochtone et elle chante en inou.
Oui.
Son accent, ça va?
Oui, mais on comprend très bien, je suis capable de... Juste un instant, elle chante avec Philippe McKenzie, elle a appris avec un monsieur de cette île qui est très reconnu. Puis elle a pratiqué, c'est ça, elle chante... elle chante très bien.
Est-ce que c'est une chanson pour les femmes autochtones?
Les autochtones, la situation autochtone en général. Ouais. Cherchant la force de vivre en tant qu'être humain. Qu'est-ce que je veux faire? Que vais-je léguer à la génération prochaine? Où vais-je les conduire? Moi, je m'appelle Daphné Hervieux-Labbé, j'ai 26 ans, je viens de Betiamit. J'ai une fille de 9 ans. Elle aussi, elle vient de Betiamit, ça fait depuis 2009 que nous sommes à Québec.
Pour situer, Betiamit, c'est où?
C'est vers la côte nord, vers le nord, plus en haut au Québec. C'est à 5 heures de route de Québec, de la ville de Québec.
Et vous êtes Innu?
Oui, Innu. Oui. Innu, puis moi, j'ai décidé de venir à Québec pour les études, puis protéger ma fille. Protéger ma fille de la communauté, parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle. Oui, jeune, c'est beau, mais quand tu as atteint l'âge de 12 ans, quand... qu'il faut que tu te cherches, ben les seules options, c'est soit tu es chanceux que tes parents peuvent sortir de la ville puis faire qu'est-ce que tu as à faire, ou tu restes dans ta communauté, puis la drogue vient jouer, l'alcool, très de bonheur. Moi, pour protéger ma fille, je pense qu'il fallait partir, puis nous sommes tous partis, mes parents, puis moi, ici à Québec.
C'est le fait d'avoir votre fille qui vous a motivé à partir?
Oui, parce que aussi j'ai vécu de la violence avec le papa. C'est difficile, c'est très difficile. Autochtone, c'est des générations en générations qu'on traîne, mais... Parce que mes parents aussi ont leurs problèmes à eux autres aussi, puis il fallait qu'ils quittent la communauté, parce que c'est malsain. On était enfermés, puis mes parents avaient besoin aussi de partir de là. Puis on va retourner, je vais retourner, partir pour mieux revenir. Moi, je veux ouvrir une garderie dans ma communauté, offrir... des services que aujourd'hui je suis en train de faire mon expérience. J'observe, puis je vais retourner dans ma communauté, aller donner qu'est-ce que j'ai à donner. On mérite pas de qu'est-ce qu'on a pu subir, puis c'est pas nous qui l'a demandé. Fait qu'aujourd'hui faut avoir justice, puis on est tout ensemble, puis faut fonctionner ensemble. C'est ça la vie d'aujourd'hui. On va être capable. Faut faire une équipe. Faut plus être séparés, non autochtones, autochtones. C'est faut être une équipe puis travailler ensemble. Tente penna ma metnenten Ua pecci guanci tut man Nu ci ci su ci an Nin e nu ian Ci guan ma chi ci tut man Ci guan u ma ci min co Ценутат ке ти учен, танте мачей ти ти го.
Il y a quelques jours, le nouveau gouvernement canadien de Justin Trudeau a annoncé qu'il consacrerait 5,5 milliards d'euros ces prochaines années pour l'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones. Et ce même gouvernement débloquera également 40 millions d'euros pour financer cette grande enquête fédérale sur la disparition de ces femmes. C'était « Canada, portée disparue, le drame des femmes autochtones », un reportage de Sarah Maquet. Mixage Pierrick Charles. Interception a été réalisée cette semaine par Anne Luro avec la collaboration de Stéphane Combe et Sophie Hoffman. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous, Pascal Dervieux. Pour un complément d'information sur le sujet du jour, rendez-vous sur le site internet de l'émission.